Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend à peu près bien, ça va ? Donc je vais commencer par me présenter. Donc Thibaut Rigaufray, je suis doctorant à l'Université Lumière Lyon 2 et je donne également des cours à l'Institut d'études politiques de Lyon. Donc doctorant en sciences politiques et à côté de ce travail de thèse et d'enseignement, moi-même ainsi que Mathieu, nous sommes membres du collectif Jeunes Chercheurs, qui est un collectif né l'année dernière par rapport à la mobilisation contre les réformes universitaires qui se sont mises en place. Collectif qui continue toujours, que ce soit pour l'application des réformes, mais également la question des précaires, des jeunes précaires au sein de l'université. Donc voilà.
Bonjour. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, parce que moi je pourrais pas parler plus fort en fait. J'ai plus de voix. J'ai plus de tension.
Donc, Mathieu Legrange, doctorant en sciences politiques. Donc, je travaille plus particulièrement sur les mouvements indigènes en Amérique latine et bon, plus précisément en fait sur l'Équateur. Donc, du coup, je suis doctorant à l'IEP d'Aix-en-Provence. Je donne des cours aussi en sciences politiques à la PAC, après les sciences politiques de Lyon 2. À l'UP Lyon et puis aussi à Besançon. Bon, ça fait la résultante de la précarité à l'université, c'est-à-dire qu'on doit faire même parfois 200-300 km pour aller donner des cours, pour essayer de se payer un peu une situation un peu meilleure pour essayer de faire sa thèse. Donc, du coup, je vais présenter très rapidement ce qu'on voulait faire dans ce cours-là. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir parler plus fort. Hein, j'ai essayé de faire un peu de cours. Donc, l'objectif de ce cours, ce serait de faire une discussion entre Thibaut et moi sur une discussion entre deux personnes qui ne travaillent pas du tout sur la même chose, sur les mêmes objets, on va dire, qui ne travaillent pas du tout sur le même univers culturel, si on peut appeler ça comme ça. Thibault, bon, travaille plutôt sur le bérisme et la traduction du bérisme dans le Parti Socialiste français. Et bon, bah, moi, du coup, je suis plutôt spécialisé sur l'Amérique latine, hein. Et plutôt sur les mouvements sociaux en Amérique latine avec un caractère ethnique. Et donc, du coup, voir comment, et voir si c'est possible, hein, c'est une expérimentation qu'on fait. Hein. Bon, bien entendu, on a déjà discuté entre nous avant, et ce cours est le résultat aussi de certaines discussions entre nous, mais bon, les discussions de bureau ou des discussions autres. Du coup, on va essayer de voir si l'étude de l'Amérique latine pourrait apporter des expériences, on va dire, pour la gauche française, et si les théories politiques sont surtout étudiées et surtout théorisées, conceptualisées en Europe ou aux États-Unis, apporte des idées pour étudier l'Amérique latine et donc parfois plus particulièrement les mouvements indigènes. Donc du coup, pour être très précis quand même, je ne suis pas spécialisé sur toute l'Amérique latine, bien entendu, hein, celui qui connaît toute l'Amérique latine, c'est un dieu. C'est très bon. Moi, je ne connais pas le Brésil, je ne pourrais rien apporter dessus. Mais par contre, je connais très bien l'Équateur, je connais la Bolivie, je connais le Venezuela, etc. Donc, bon, et la Amérique centrale, on pourra échanger sur cette expérience-là. Pardon. Et on essaiera de revenir sur toutes ces questions, en fait, tout le long du cours. Une précision, il me semble, enfin en tout cas on est d'accord tous les deux, on ne veut pas en fait faire passer l'idée que ce qui se passe en Amérique latine, c'est exceptionnel, c'est super bien, que les expériences qu'il faut, que ces expériences soient renouvelées en Europe, c'est pas du tout l'idée, et comme je vais quand même beaucoup parler des mouvements indigènes, je vais essayer de faire en sorte de ne pas, alors moi d'abord, et j'espère vous aussi, de ne pas idéaliser en fait ces mouvements indigènes. Ces mouvements indigènes ont leurs forces, ont leurs faiblesses, ont leurs avantages, leurs inconvénients, mais je vais essayer d'avoir une prise de distance par rapport à ces mouvements indigènes. Bien entendu, j'ai beaucoup plus d'affinité avec les mouvements indigènes qu'avec d'autres mouvements sociaux, et je vais essayer de prendre une prise de distance par rapport à ces mouvements et de faire en sorte de casser cet idéalisme qu'on a, surtout en Europe et particulièrement en France, par rapport à ces expériences, en Amérique latine.
Pour finir cette petite introduction, j'aimerais insister sur deux points. Le premier point, c'est celui de la méthode. En sciences politiques particulièrement, et dans les sciences sociales en général, il y a toujours la question du rapport entre le chercheur et l'objet, à savoir les valeurs. C'est-à-dire qu'on étudie des choses qui nous intéressent, forcément. Et il y a toujours le risque, et je parle bien de risque, de prendre position avant de comprendre. Ce qu'on va essayer de faire ici, et c'est pour ça qu'on parle d'expérimentation, c'est de suspendre, ne serait-ce que 2 heures, le jugement moral. Pourquoi ? Parce que là-dessus, je signe et contre-signe par rapport à ce que dit Spinoza, c'est à partir du moment où on comprend, on arrête de juger. Que ça soit en positif ou en négatif. Le deuxième point, qui renvoie toujours la question de la méthode, il est sur à quoi ça sert de penser. Vous allez me dire, c'est la grande question philosophique depuis des siècles et des siècles. On va essayer d'aborder ça de manière relativement pragmatique, c'est il y a une position qui consiste à dire quand on pense, c'est qu'on parle du réel, qui n'est pas ma position. Une deuxième, qui est suite aux travaux de sciences sociales, qui consiste à dire on pense pour résoudre des problèmes. Autrement dit, ce qu'on va essayer de faire passer là, des outils, des réflexions sur des cas empiriques comme l'Amérique latine, plus exactement l'Amérique centrale, sur ce qui se passe aussi dans les gauches européennes, ce sont des outils pour vous aider à réfléchir. Si vous cherchez des solutions, ce n'est pas ici que vous les trouverez. Pourquoi ? Parce que quand on met un problème et qu'on donne directement la solution, on court-circuite la pensée. En gros, notre problème est de vous en poser, de vous rendre la vie relativement inconfortable et de faire en sorte que ça questionne, ça bouge, ça fasse réfléchir. Sinon, on tombe dans la pensée des certitudes et je crois que ce n'est pas le lieu ici d'avoir des certitudes, mais de développer le doute pour ensuite pouvoir réfléchir aux solutions. Alors, aujourd'hui, on va aborder la question des rapports entre l'Amérique centrale et l'Amérique latine, pardon, et je ne suis pas spécialiste, excusez-moi, et les gauches européennes à travers une question qui est celle du rapport au temps, du rapport à l'histoire. Pour cela, nous nous basons donc sur un texte de Jérôme Bachet, qui est un historien médiéviste, qui est également un spécialiste du néo-zapatisme mexicain, et qui a donc travaillé à réfléchir sur le rapport au temps dans certains mouvements indigènes. Alors, il a développé pour cela un concept, et ça sera un peu ma première partie, qui est celui de présentisme ou de présent perpétuel. Alors, ce qui est devenu idéologiquement décisif dans l'espace politique contemporain occidental, ce n'est pas de se définir maintenant en termes de mouvement ou de conservation. Si vous voulez, le clivage politique, il est plus celui des progressistes et des conservateurs, bien qu'on nous ressasse à peu près ça tous les jours à la radio ou à la télé. Il n'y a pas d'un côté la gauche qui serait progressiste et la droite qui serait conservatrice. Ça a bien changé depuis plus de 30 ans. Et c'est pour ça qu'on est perdu particulièrement à gauche, parce qu'on a du mal à comprendre le monde contemporain avec des repères qui sont devenus largement dépassés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, et à la suite de travaux notamment d'un Espagnol qui s'appelle Daniel Inerariti, c'est que le mouvement est largement passé à droite. Être moderne, être contemporain, être progressiste est devenu l'argument de la droite. Vous pouvez remarquer ça dans l'énoncé même des lois qu'on fait passer, qu'on est en train de faire passer ou qu'on a fait passer, qui s'appellent des lois de modernisation de l'université, des lois de modernisation de l'économie. Bref, la modernité est devenue l'argument suprême. Archaïque égale has-been égale vous allez perdre. Quand on a dit ça, on a touché à peine superficiellement le problème. Plus largement, le progrès, pendant très longtemps dans la gauche européenne et particulièrement française, le progrès, c'était le progrès social, et dans une perspective internationaliste, le progrès de l'humanité. Le progrès, pour le dire actuellement, et d'ailleurs ça se voit avec le mot révolution, maintenant la révolution, le progrès, c'est le nouvel iPod, l'aspirateur sans sac, la nouvelle crème anti-rides. Ça peut faire rire, c'est assez marrant de parler et faire des petites blagues sur les publicités, mais la publicité est souvent un bon marqueur pour réfléchir au temps présent. Alors, si le clivage conservateur-progressiste est dépassé, si le progrès est devenu consensuel, c'est-à-dire que la gauche comme la droite dit « nous sommes pour le progrès », on assiste à ce moment-là à ce que des historiens, donc j'ai parlé de Jérôme Bachet, il y a un autre qui est toujours vivant qui s'appelle François Hartog, appelle le présentisme. Alors, qu'est-ce que c'est très exactement ? François Hartog s'est intéressé particulièrement à un phénomène contemporain qui consiste à commémorer et à valoriser le patrimoine. Ce qui est intéressant dans l'analyse de Hartog, c'est du moment qu'on ne s'est jamais autant soucié de transformer un événement en train de se passer directement en événement historique. Le 11 septembre, nous avons assisté à un événement historique en direct. Ce qui est en train de se passer, c'est que le présent absorbe le passé en une commémoration. On sélectionne les traits du passé qui nous permettent de nous réassurer identitairement. Je pense que vous avez tous vu la superbe envolée lyrique et la congratulation mutuelle à propos du mur de Berlin. Il y a une sélection d'histoire. Ce qu'on appelle l'ostalgie, la nostalgie de l'Allemagne de l'Est, est considérée maintenant comme archaïque. C'est pas parce que les crèches et l'éducation étaient gratuites. Non, c'est archaïque. Donc le débat est clos. Maintenant, nous sommes dans un rapport au temps qui est de la consommation de l'éphémère. Ces analyses-là reprennent très largement des travaux de penseurs qu'on a rattachés à mai 68, Baudrillard et d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des historiens qui ont travaillé là-dessus. C'est-à-dire qu'ils saisissent quelque chose qu'on a du mal, nous, contemporains, à saisir, parce qu'on est tellement dedans qu'on ne le voit pas, c'est-à-dire la manière dont on conçoit notre rapport à l'histoire. Alors, Hartog s'intéresse à ces questions-là en disant « C'est quand même fou que le 11 septembre soit historicisé directement. C'est devenu un événement historique en direct, et tout le monde dit « c'est un événement historique ». On fabrique de l'histoire directement. Normalement, l'histoire sélectionne par l'oubli ce qui est important, a posteriori, désormais, on a de l'histoire en direct. Ça, c'est une analyse historique qui est très intéressante, qui nous permet de comprendre un peu plus dans quelle époque on vit. Ce qui est intéressant avec le texte de Jérôme Bachet, par rapport à Hartog, c'est qu'il va politiser, non pas au sens ramener ça dans un camp politique, mais il va politiser en disant « le présentisme est l'effet d'une pensée qu'on appelle le néolibéralisme, et l'effet aussi des évolutions du capitalisme. » Il y a, à partir des années 80, un discours qu'on peut résumer par la formule « c'est la fin de l'histoire ». Fukuyama est certainement l'auteur le plus connu, un Américain, qui dit « nous sommes entrés dans une fin de l'histoire, la chute du mur de Berlin, le capitalisme triomphant, il n'y a plus de société alternative réelle, désormais le débat historique est clos. » C'est un marqueur historique à partir du moment où on rentre dans ce présent perpétuel. Nous sommes dans un présent perpétuel qui nie l'avant et l'après, qui fait aujourd'hui le nouvel hôtel sur lequel on doit tout sacrifier. Dans notre monde moderne en voie de globalisation, l'aujourd'hui est le nouveau tyran, qui pour mieux assurer sa domination fait sombrer le passé dans l'oubli et obnubile toute perspective du futur qui ne soit pas la répétition ou l'amplification du même phénomène. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase de Bachet ? Le présentisme est le produit de deux processus. Le premier processus, c'est la manière dont le capitalisme a organisé notre temps. Il y a une expression assez jolie de Norbert Elias qui parle de tyrannie des horloges. Quand vous pointez le matin l'usine, vous comprenez un peu ce que veut dire tyrannie des horloges. L'idée, c'est l'homme pressé. Vous savez, ce cadre dynamique qui fume, maintenant il fume un peu moins avec la nouvelle loi puisque c'est devenu quelqu'un de malade. L'homme pressé sans cesse, qui n'a pas le temps de se reposer à quelconque moment. Les transports qui vont de plus en plus vite. Pour résumer, l'information, la société d'information dans laquelle nous sommes, produit un changement historique assez fort. Avant, pour maîtriser le corps social, en l'occurrence les salariés, on censure, on censurait. C'est-à-dire qu'on retient de l'information. On n'est absolument plus du tout là-dedans. Maintenant, on surinforme. On ne sait plus trier. On ne sait plus quelle information vaut quelque chose. Et d'ailleurs, toutes les informations se valent. Ce nihilisme du présent, c'est en partie le produit du capitalisme. Pourquoi ? À partir du moment où vous avez acheté un produit, il faut reproduire du désir, reproduire du besoin, sinon on est dans la consommation durable, qui n'est pas compatible, malgré les discours sur la croissance verte, avec le capitalisme. Le second processus, et là je vais peut-être faire grincer quelques dents, est en partie lié à ce qu'on a appelé la pensée postmoderne. La pensée postmoderne a été portée par des philosophes, Jean-François Lyotard notamment, mais des philosophes aussi de gauche, et même de gauche radicale. Antonio Negri est certainement un des philosophes qui est dans la lignée de cette pensée postmoderne. Cette pensée-là, qui est une pensée critique pourtant, nous dit une chose, le capitalisme a évolué. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une nouvelle lecture du capitalisme. On ne parle plus d'ouvriers, on parle de salariés. Et quand on ne parle plus de salariés, on parle même d'intermittents du travail. Le précaire n'est pas l'anomalie ou l'accident, c'est le précariat, c'est-à-dire le nouveau système de gestion du travail. Le précariat, c'est précisément un nouveau rapport au temps, par le fait que le futur n'est pas projetable, puisqu'on ne saura pas où on est demain. Le passé est largement écrasé dans la mesure où nous n'avons pas d'identité professionnelle. Et on se retrouve dans un présent inquiet, constant, où on se cherche des repères. Antonio Negri a dit, justement, le capitalisme a évolué, maintenant il faut être une multitude, en réseau, internationaliste, il faut être libre, il faut même être flexible. C'est étonnant d'ailleurs pour un penseur de la gauche radicale. La flexibilité même passée dans la gauche radicale. Ce rapport au temps, c'est celui-là, c'est celui de l'homme pressé. Pour essayer de sortir un peu de la théorie qui est toujours difficile à appréhender quand on aborde une question aussi complexe, j'aimerais vous donner un exemple anecdotique sur les médias et ensuite parler un petit peu de ce qui se passe dans la gauche européenne. Je ne vais pas citer le nom de cette série américaine qui passe sur la 6e chaîne. J'ai été frappé, encore une fois c'est une anecdote qui est révélatrice, par le fait qu'après cette série passe directement derrière une émission sur le fait que cette série soit devenue un mythe. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on nous produit un bien de consommation, on nous produit un mythe en direct. Ce n'est pas les auditeurs, au bout de 10 ans, qui vont faire que ça va devenir une série culte. Maintenant, on assiste à la mythification, à l'événementisation d'une série en direct. Ça veut dire que les producteurs sont à la fois ceux qui vendent le produit et ceux qui fabriquent l'histoire. Ce qui est quand même assez intéressant d'un point de vue de l'histoire de la consommation. Ça, c'est un exemple anecdotique. Autre exemple anecdotique, mais beaucoup moins drôle, c'est celui de la guerre en Irak. Et là, j'aimerais vous citer quelques phrases qui me paraissent être résumées assez bien cette ambiance. L'espace médiatique ne se caractérise plus maintenant par une analyse fine, mais par une prévalence du court terme, le scoop, l'immédiateté. Toute période de crise y est affairée et bavarde. D'ailleurs, la crise, on n'en a jamais autant parlé. Voilà que reviennent, Guy Ray, les experts en stratégie, les exégètes de la géopolitique. On retrouve fiévreux tous les experts parlant en direct de ce qui est en train de se passer. Experts qui sont eux-mêmes pris dans le processus dans lequel ils parlent. Ce sont des gens qui conseillent les hommes politiques qui participent à la crise, qui vont nous dire maintenant comment on en sort. Ce qui est dans un jugement moral à côté de gueule, et ce qui est dans un jugement analytique bigrement intéressant. On a des commentateurs autorisés, des spécialistes de la question, des essayistes opportuns, des sondeurs, guetteurs de cette fiction en direct. L'opinion publique, vous savez, cette dernière fiction-là, L'opinion publique n'existe pas, qui est un titre d'un libelle de Bourdieu, qui a produit beaucoup de débats, de polémiques, et scientifiques et politiques. Ce qui est intéressant, c'est de montrer avec Bourdieu que l'opinion publique est une construction. À partir de là, au lieu de faire parler, on prend la parole à la place d'eux. Ce qui est intéressant dans ce présentisme médiatique, c'est que ça a des conséquences désastreuses. Et on le retrouve sur la guerre en Irak. Maintenant, on est dans des lectures simplistes. On a remplacé l'analyse par un mauvais scénario. On a les bons, les Américains et les Alliés en général dans la coalition, et les méchants, les talibans. C'est relativement simple. Toute personne qui commence à expliquer que parmi les talibans, il y a une pluralité de positions, que oui, il y a des islamistes, mais tous ne sont pas djihadistes, on perd le public, on baisse l'audimat. C'est trop complexe. Bref, le complexe est envoyé se faire foutre lamentablement. Pourquoi ? Parce que le scoop a dicté. Cette analyse, encore une fois, vous l'entendrez même par des experts publicitaires, en disant ça va vite, ça part dans tous les sens. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une anecdote. C'est précisément ce qui est en train de devenir notre rapport au temps. Le deuxième exemple, pour parler du présentisme, qui sont des exemples politiques, on peut le voir dans les campagnes politiques. Présidentielle notamment, surtout présidentielle. La dernière campagne présidentielle était à maintes égards un régal pour un observateur. Bon, pour un citoyen, c'est autre chose. Désormais, le progressisme et le conservatisme sont dépassés. Ça ne marche plus gauche, droite, conservateur et progressiste. Ça ne fonctionne plus. Alors qu'est-ce qu'il y a ? On a au sein de la gauche ce qu'on appelle des sociolibéraux, peu importe le nom, c'est pas très important. Bref, c'est ce qu'on appelle la droite de la gauche. Ce sont des gens qui disent, pour pouvoir réguler le capitalisme, il faut le comprendre, il faut s'adapter, etc., etc. Tout ça au nom du progrès. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va avoir un conservatisme qui consiste à dire le capitalisme est indépassable. Ça, c'est du pur conservatisme. On tient à la tradition. Et de l'autre côté, on nous dit, et pour ça, il faut faire des réformes. Il y a des lois naturelles de l'économie qui sont déjà là, déjà présentes, et il faut faire des réformes pour qu'elles s'appliquent bien. Il n'y a pas d'utopie là-dedans. Il n'y a pas de projection dans l'avenir. La projection dans l'avenir n'est que la réalisation d'un présent qui a été empêché par des réformes sociales, qui a été empêché par quelques lignes dans le Code du travail. Bref, il faut réaliser le réel. C'est bizarre, cette idée-là. Le présentisme, c'est exactement ça. C'est pour ça que dans les campagnes présidentielles, on n'a plus de perspective d'avenir. On oppose maintenant une contre-utopie. La contre-utopie dit qu'il faut accepter le monde tel qu'il est. Et si on accepte le monde tel qu'il est, il faut réformer pour qu'il soit plus encore que ce qu'il est. Il faut qu'il soit vraiment là. Les réformes assez simples, c'est les réformes dans l'histoire des idées, c'est qu'on assiste dans la droite, par exemple, à une évolution radicale. Les conservateurs ont perdu. La création de l'UMP signe la victoire des libéraux au sein de la droite, en France. Aux États-Unis apparaît ce qu'on appelle les néoconservateurs. Néoconservateurs qui, pour la plupart, étaient à gauche dans leur jeunesse. Ce sont des gens qui sont et ils se disent progressistes. Ils sont pour le progrès. Donc, croire encore et faire des appels incantatoires au nouveau progressisme, au néo-progressisme, ce genre de choses, c'est ne pas comprendre que nous ne sommes plus dans le même capitalisme. Ce présentisme-là, dans les campagnes politiques, on le voit avec ce qu'on appelle le pragmatisme électoral, qui consiste à dire on se croirait dans un temps immobile où demain ressemble à aujourd'hui. Il consiste à dire on oublie toute pensée politique en termes d'idéologie. D'ailleurs, l'idéologie est devenue une insulte. Très intéressant, dans les années 70, on discute fiévreusement le soir autour des mots idéologie. Désormais, c'est presque une insulte. Idéologie égale archaïque égale 1917 égale bolchevique. Le discours généraliste qu'on nous sert. Le problème, c'est que si on n'a pas de perspective d'avenir, si on n'a pas, enlevons le mot utopique et chargé, si on n'a pas une perspective d'avenir, on fait des réformes et on ne sait pas où on va. On a une tactique qui consiste à voir comment on peut gagner dans le parti, on a une stratégie une fois qu'on est au pouvoir, mais le troisième terme, tactique, stratégie, et puis quoi? Et puis rien. Il n'y a pas de perspective d'avenir par rapport à ça. Pourquoi la gauche est en crise? Il y a 12 000 raisons à ça. Une de ces raisons, c'est que la gauche, dans son ensemble, est incapable de comprendre cette mutation-là. Je parle de gauche politique, la gauche intellectuelle est un poil plus subtile par rapport à ça. Les socialistes s'avèrent incapables de comprendre qu'il ne suffit pas de s'adapter au présentisme. Il faut bien, et même dans les marchés, pas seulement parler d'actions, de propositions concrètes, il faut bien donner une société autre. Il faut bien donner une perspective d'avenir. Les socialistes n'en sont pas capables. Parce qu'au nom de l'adaptation, ils ont tellement dit « Ok, on aménage le capitalisme » que le capitalisme les a aménagés. Alors on se dit « Il y a la gauche radicale, tout va très bien. » Mais la gauche radicale, hélas, est devenue conservatrice. Et je pense qu'elle a eu raison. Parce que la conservation, c'est une forme de résistance. Face à l'offensive néolibérale, il faut défendre les acquis. Ce qui est très légitime. Le problème, c'est que là, on est dans une résistance face à une offensive. Mais comment on propose un autre monde? Comment on propose un contenu derrière la posture révolutionnaire? Il y a quelque chose d'obscène, je crois, par rapport à ça, de parler d'un SMIC à 1500 euros et d'être incapable, derrière le mot révolution, de mettre un contenu. Donc, c'est très désespérant ce que je vais vous dire là. Mais je crois qu'il faut savoir profiter des crises. Nous avons la chance de connaître la crise de la gauche en général. Les périodes de crise sont celles qui précèdent un renouveau. À partir de là, si on veut penser des sorties de crise, et pas seulement financières, mais bien en termes d'idées, en termes de société, alors il va falloir dire comment on fait face à ce présent perpétuel. Vous allez me dire, quid alors de l'Amérique latine? Précisément, je pense que nous, Français, plus largement occidentaux, sommes tellement immergés là-dedans que pour pouvoir à la fois comprendre ce qui se passe, mais aussi trouver des solutions, des pistes, des réflexions, il faut aller voir ailleurs. Il faut aller voir ailleurs et il nous a semblé, c'est un peu le pari que nous avons fait, le pari de cette expérimentation avec Mathieu, qu'il se passe quelque chose en Amérique latine qui n'est pas un modèle exportable clé en main. Mais il se passe des choses où il y a bien certaines communautés qui résistent, pour des raisons propres à leur histoire et à leur culture, qui résistent au présentisme. Donc, j'aimerais finir là-dessus, sur cette petite partie. Le présentisme, le présent perpétuel, si vous voulez, est véritablement un des défis qu'il va s'agir de relever si on veut penser une sortie de crise pour la gauche. Il me semble qu'il y a beaucoup de productions intellectuelles qui permettent ça. On n'est pas des génies, on n'est pas les premiers à avoir parlé de présentisme, bien que ça soit peu diffusé, on n'est pas les premiers à avoir lu ces historiens-là. Alors pourquoi ? Ça, c'est aussi peu connu, pourquoi c'est aussi peu diffusé? Et je pense que c'est un des éléments de la clé de la crise de la gauche. C'est qu'il y a une déconnexion totale entre la gauche intellectuelle et la gauche politique. Les hommes politiques, par pragmatisme électoral, se foutent globalement des idées. Et là-dessus, je finirai là-dessus. J'incite à aller voir les travaux, notamment sur le Parti Socialiste de Rémi Lefebvre et Frédéric Salicki, qui montrent très bien, sans jugement moral, pourquoi les socialistes s'intéressent d'abord à gagner les élections. Donc je vais donner la parole à Mathieu.
Merci tout le monde. Alors. Bon, il se trouve qu'on ne devait pas. On parle d'idée que tout ce qui se passe en Amérique latine n'est pas exportable, bien entendu. Et justement, le texte sur lequel on a basé cette séance et à partir duquel on voulait essayer de réfléchir sur finalement la question du temps, la réappropriation du temps. nous a amené en tout cas à réfléchir à des formes de résistance qui passent notamment en Amérique latine par les mouvements actuels. Alors, je vais développer hein, petit à petit justement cette réappropriation du temps et voir qu'en fait, dans les mouvements indigènes, mais enfin, alors je vais faire une différenciation hein, parce que là c'est pas totalement vrai ce que je suis en train de dire. Bon, en fait, dans les communautés indigènes, en fait, c'est plutôt alors la question du temps dans les communautés indigènes, dans la culture, dans les cultures indigènes, plutôt que dans les mouvements indigènes. Bon, on pourra revenir là-dessus, je ne vais pas le développer là, mais on pourra revenir là-dessus dans la discussion, dans des séances prochaines. Mais il me semble justement, et ce texte m'y a fait penser, que dans les mouvements indigènes, là je parle plus particulièrement de l'Équateur, l'affaiblissement des mouvements indigènes en ce moment en Amérique latine vient du fait qui sont rentrés en fait dans le temps politique. Et justement, ils ne maîtrisent plus leur temps à eux, et notamment leur temps qui leur a servi à s'organiser, leur temps qui leur a servi à résister. Et du coup, il me semble que dans les mouvements indigènes actuels, un des points sur lesquels il va falloir réfléchir, c'est justement à cette réappropriation du temps. Bon, ça c'était une petite parenthèse, on pourra y revenir hein, si vous voulez, mais je ne vais pas développer ça, en tout cas dans cette présentation. Par contre, je vais revenir sur comment en fait, dans les cultures indigènes, on voit le temps. Le temps est vu différemment en fait que dans la culture occidentale. Et voir comment, en fait, justement, ces cultures indigènes ne s'inscrivent pas dans ce présent perpétuel, puisque justement, il y a une réappropriation, enfin, il n'y a pas la même vision du temps. Et notamment, le fait que le temps, en fait, soit d'une toute autre nature dans les cultures indigènes. Il a une toute autre vitesse. Le temps est cyclique. Enfin, on n'est pas dans une temporalité linéaire dans une culture indigène, on est dans un temps cyclique. Et la mémoire indigène, justement, c'est un processus de renaissance du passé. Bon. En fait, on va essayer de voir justement dans les cultures indigènes, on n'a pas une volonté de revenir à un passé. Hein. Pas du tout ça qu'il s'agit, ça serait plutôt de connaître le passé pour éviter justement de reproduire certaines erreurs. Donc certes, on est dans une vision cyclique du temps, hein. Donc du coup, on pourrait penser que tous les événements se répètent, tout se répète dans les cultures indigènes. Et on va voir à partir de quoi en fait ils pensent comme ça. Donc si, pour la culture occidentale, tout est nouveau finalement, c'est un peu ce qu'a dit Thibault, hein, tout est nouveau, le futur est meilleur que le présent, le temps et la notion de progrès sont linéaires, pour les populations indigènes, on n'est pas en fait dans cette vision. Ils ne voient pas le temps comme d'événements singuliers, nouveau. Alors, on est plutôt dans un retour cyclique de l'identique. Mais alors, à partir de quoi, en fait, quelle est la clé pour interpréter justement ce cycle, hein, cet éternel retour de l'identique qu'il y a derrière ce temps cyclique. Et justement, la clé pour interpréter ça, la clé pour interpréter les cycles indigènes, c'est qu'il faut se sortir en fait de cette insistance sur l'identique. Il faut au contraire penser l'annulation de l'identique. Alors, petit à petit, ça va s'expliquer.
Donc du coup, on est plutôt dans l'affirmation, plutôt que l'affirmation de l'égalité, de l'identique, on est dans l'affirmation de l'inégalité, en fait. Hein. Il y a une unité qui est le cycle, mais il y a... Mais la clé intérieure de ce cycle, c'est la rupture, en fait, avec l'égalité. Du coup, en fait, on est toujours dans une vision du temps qui passe aussi par le sacrifice. Sacrifice, en fait, le caractère de sacrifice au cours duquel, justement, chaque être et chaque moment se sacrifie pour que un autre être soit. Donc du coup, en fait, si vous voulez, on est dans un... Pour résumer un peu tout ça, c'est que la mort va donner sens, en fait. La mort, c'est celle qui donne le sens, en fait, à ce cycle. Donc du coup, on est toujours sur l'éternel retour de la mort, l'éternel retour de la destruction. Et dans les cultures indigènes, on ne pense pas, on n'a pas l'intention, justement, d'accommoder le cosmos, l'univers, la nature à ses désirs. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans la culture occidentale où on essaye toujours de vouloir avoir la maîtrise sur la nature, toujours avoir la maîtrise sur les événements. Là, dans les cultures indigènes, on n'est pas là-dedans. Hein. Donc du coup, je vais reprendre une phrase de Jérôme Bachet, enfin une phrase plus qu'une phrase en fait, une partie du texte de Jérôme Bachet pour que vous ayez un peu une soit plus clair peut-être. Hein. Je cite Jérôme Bachet dans son texte. On observe certes dans les textes, donc Jérôme Bachet étudie hein, les textes de l'EZLL, hein, des néo-sapatistes. Hein. Voyons, là le terme de néo-sapatiste est valable. Ce ne sont pas des sapatistes, hein. Ce sont des néo-sapatistes. Pour en revenir à sûr. On observe certes dans les textes sapatistes, une contradiction, je viens d'expliquer la même fois, dans les textes sapatistes, une contradiction entre la référence à un temps cyclique qui fait toujours revenir au même et l'espérance d'un avenir différent. Mais la contradiction se résout en partie dans la mesure où la répétition cyclique apparaît lorsque l'on compare la situation présente au passé, et donc là il s'agit alors d'amplifier rhétoriquement à des fins politiques l'indéniable permanence de l'oppression et des inégalités sociales, tandis que lorsque l'on regarde le futur depuis le présent, la lutte politique permet d'ouvrir des perspectives inédites. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les mouvements indigènes, les revendications, notamment, je vais y revenir dessus, mais les revendications de vie en communauté, ces revendications qui pour nous nous paraissent archaïques, qui pour nous nous paraissent d'un autre temps, il n'y a pas une revendication de retour au passé. On n'a pas cette vision de retour à un passé qui serait idyllique. Non, pas du tout. Au contraire, on essaye de connaître ce passé pour améliorer le futur. Donc du coup, on a quand même encore une vision qui passe, justement, par cette séparation entre passé, présent et futur. Le présent nous permet de réfléchir par rapport à notre passé, et cette réflexion permet de se lancer dans un futur qui est sur lequel un futur qui n'est pas écrit, un futur qui est imprécis, sur lequel on n'a pas de prise. Donc si vous voulez, une des critiques des mouvements indigènes, de cette vision du temps occidental, c'est le fait notamment de dire que malgré cette conception historique du temps, les sociétés modernes, finalement, n'échappent pas à la réalité archaïque, dans le sens où, et à une réalité archaïque et cyclique, dans le sens où, malgré les innovations technologique extraordinaire qu'on peut voir dans nos sociétés, finalement, ces innovations technologiques n'ont pas altéré le cours répétitif du Soleil, n'ont pas altéré le cycle des planètes, n'ont pas altéré le cycle des saisons, le cycle de la vie, et qui continuent finalement toujours à avoir les mêmes tours. Bon, dans une vie, on est bébé, on devient enfant, adolescent, bon maintenant on est dans la post-adolescence, adulte, d'un certain âge, et on meurt. Donc le cycle se reproduit toujours de la même façon. Et même si on a des crèmes antirides, on a l'âge de ses os. Donc du coup, cette conception du temps va avoir une conséquence directe, en finale, dans la compréhension de la vie de ces sociétés. Par exemple, dans les cultures indigènes, le concept de développement n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la conception d'un processus linéaire qui établit un état antérieur et un état postérieur. Il n'y a pas cette vision d'un état de sous-développement contre lequel il faudrait lutter, un état de sous-développement qu'il faudrait surmonter. Il n'y a pas un état de développement à atteindre. Donc du coup, il n'existe pas dans les cultures indigènes cette dichotomie qui explique et qui différencie une grande partie des processus en marche. Donc depuis la cosmovision indigène, l'amélioration sociale, et donc entre guillemets leur développement, on pourrait poser la question, cette amélioration sociale est une catégorie en construction et en reconstruction permanente. C'est-à-dire que l'enjeu de la vie elle-même n'est pas d'acquérir un maximum de biens matériels. L'enjeu de la vie elle-même est dans cette reproduction, dans cette construction de cette amélioration sociale. Donc c'est ce qu'on appelle, en Équateur, c'est ce qu'on va appeler le Sumacosai, en Bolivie, le Sumacamala, qui sont en fait des conceptions qu'on traduirait en espagnol comme buen vivir, ou une traduction bien mauvaise, il faut toujours traduire en français, le bien vivre, ou le vivre bien. Et cette conception de bien vivre est une conception qui est totalement différente, par exemple, de celle qu'on peut avoir chez nous, qui est la conception du bien-être social. Bien-être social, notamment, proféré par l'État-providence, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est plus du tout, en fait, dans les mêmes conceptions.
Je vais accélérer un tout petit peu, sinon je vais...
Un point aussi sur lequel revient Jérôme Bachet, c'est que dans notre... Là, je vais le citer, ça va être plus facile. Toujours dans cette conception de présent perpétuel, de présentisme, Jérôme Bachet dit... Face au processus d'uniformisation spatiale et de délocalisation généralisée promue par la mondialisation marchande, il pourrait être légitime de revendiquer une singularité des expériences et une autonomie des lieux susceptibles de restituer aux êtres humains et à leurs actions leur nécessaire localisation, c'est-à-dire leur relation avec les qualités spécifiques du site qui abrite leur vie et contribue à donner sens, à leur donner sens. Et là, en fait, et Jérôme Bachet prend beaucoup cet exemple, c'est l'exemple des communautés indigènes. C'est-à-dire que les indigènes n'arrivent pas à se penser hors de leur lieu. Leur lieu est important, leur lieu de vie est important. Et donc la communauté indigène, ça va être la base de la vie de l'indigène. Là où tout se fait, en fait. C'est la base essentielle de leur connaissance de la vie. Donc, la communauté indigène est beaucoup plus importante, a un caractère sacré, c'est l'espace de vie économique, sociale, culturelle, politique. Une communauté indigène communauté indigène est basée sur des terres, et sur ces terres, on cultive toutes les plantes qui vont leur permettre de faire leur cérémonie, toutes ces plantes sacrées, que ce soit la coca en Bolivie, le maïs chez les Mayas, Mayas est un peuple du maïs, hein. Bon, etc. Donc c'est sur ces terres qu'on cultive ces plantes sacrées. Donc du coup, la communauté en soi est importante dans la culture indigène. Bon, on pourra revenir, je n'ai pas 20 ans, je vais passer un peu là-dessus. On pourra revenir dans la discussion, si vous voulez, sur deux types de revendications qui sont très différentes dans les mouvements indigènes, qui est la revendication d'une terre à cultiver ou la revendication d'un territoire. Deux types de revendications et deux types de revendications qui entraînent des enjeux politiques complètement différents. Bon, si vous voulez, on reviendra là-dessus dans la discussion. Et du coup, à partir de cette communauté indigène, on réfléchit aussi sur l'organisation sociale du politique. C'est-à-dire sur les changements d'autorité. Comment se passe la vie politique dans une communauté indigène? Comment les communautés indigènes réfléchissent sur l'organisation sociale du politique, sur les changements d'autorité? Donc le fonctionnement, en fait, de la communauté indigène est à peu près semblable de partout. En Amérique latine, bon, il y a quelques spécificités, bien entendu, hein. Mais en gros, fonctionnement d'une communauté indigène, et ça va différer hein, de notre organisation sociale et politique à nous, dans les pays démocratiques. Il y a une assemblée qui regroupe toutes les personnes de la communauté, et dans cette assemblée, bon, tous les membres de la communauté sont présents, et le pouvoir de la parole est important. C'est un peu ce que développait Pierre Clastre, hein, dans ses études, notamment des Guarani au Brésil. Le chef dans les sociétés primitives, enfin là c'est la théorie de Pierre Clastre, hein, le chef dans les sociétés primitives n'a pas de pouvoir, est dépourvu de tout pouvoir, mais par contre, le seul pouvoir qu'on lui donne, c'est le droit à la parole. Et le pouvoir de la parole est très important, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir discuter, comme ça qu'on va pouvoir régler les problèmes de la société et de la communauté. Donc du coup, cette communauté, en fait, donc cette assemblée va prendre les décisions en matière agricole, va désigner les autorités chargées d'administrer les biens communaux, gérer les fonds, représenter la communauté dans les relations avec l'extérieur, faire attention à la production, arbitrer les disputes et maintenir l'harmonie du groupe. Bon, c'est à peu près les objectifs d'une assemblée. Et ce qui est intéressant, c'est que les changements d'autorité dans les communautés indigènes se font à travers un système ancestral et notamment l'élection par la communauté d'autorités qui disposent d'une vision et d'une expérience des problèmes économiques et sociaux. Donc du coup, dans une communauté, on n'est plus sur une élection à partir d'un problème, d'un programme électoral, et après on met en place une élection à travers des urnes, on est sur une discussion où, justement, on est finalement dans un processus clair de maturité des leaders et des autorités. C'est un peu, pour faire vite, c'est un peu schématique, enfin bon, parfois ça peut expliquer certains trucs. On est un peu dans l'élection d'un sage, entre guillemets. J'ai horreur de cette expression, enfin bon, passe. Et du coup, ce processus clair de maturité des dirigeants traditionnels est lié justement à l'organisation économique, elle est liée à l'organisation du travail, elle est liée à l'organisation sociale de la communauté, elle est liée à l'organisation culturelle, à l'organisation familiale de la communauté et du monde indigène. Et c'est ce que nous, justement, dans nos cultures occidentales, on qualifie de primitif et de non-démocratique. Bien entendu, vu que c'est un processus clair de maturité, on discute sur le chef, et bien entendu, l'élection se fait à main levée. Hein. Ce n'est vraiment pas démocratique. Hein. Mais finalement, on est dans un consensus. Le leader qui ne prendra pas de décision, hein, qui n'aura aucun pouvoir finalement, qui ne pourra pas commander, le leader est là, est élu par rapport à un prestige aussi. On lui accorde un certain prestige à ce leader. Et surtout, on lui accorde une confiance. C'est lui qui va représenter la communauté, avec les relations avec les experts. Bon. Finalement, tout ce que je viens de dire, à peu près, ou tout ce que je voulais dire, peut se résumer en tout cas sur la principale revendication des mouvements indigènes en Amérique latine, qui est la revendication de l'État plurinational. L'État plurinational, c'est un concept qui est assez difficile à comprendre pour nous Français, hein, qui sommes dans un État-nation unitaire, qui voudrait unitaire, homogène, etc. Pour cela, du coup, je vais prendre rapidement, je finis dans une minute, la définition qu'en fait la CONAIE. La CONAIE, c'est la Confédération nationale des indigènes d'Équateur, qui en fait, pas parce que j'aime bien la CONAIE, mais tout simplement, c'est eux qui ont conceptualisé, en fait, théorisé ce concept d'État plurinational, qui dit que la plurinationalité est un modèle d'organisation politique pour la décolonisation de nos nationalités et peuples et pour rendre réel le principe d'un pays avec une unité dans la diversité. Donc pour arriver en fait à ce résultat, selon la CONAIE, il faut changer en fait les systèmes d'organisation de l'État et aussi changer la structure économique, la structure du modèle économique. Et cela, donc, ces changements doivent se faire en suivant trois principes. Premier principe, ça va être l'interculturalité. Donc l'interculturalité qui implique un projet pour l'ensemble de la société, et pas seulement pour les populations indigènes. Deuxième principe, ça va être la démocratie plurinationale. La démocratie plurinationale s'entend en fait comme une nouvelle forme de relation entre les peuples et l'État. Nouvelle forme de relation entre les peuples et l'État qui passerait par une participation directe dans la formulation des politiques publiques. Et donc participation directe de la société civile dans l'élaboration de ces politiques étatiques. Et troisième principe, c'est l'autogouvernement. Autogouvernement qui est une traduction directe de l'espagnol à autogobierno. Et l'autogouvernement, en fait, serait la reconnaissance, justement, des autonomies territoriales gouvernées sous forme communautaire. Donc c'est la reconnaissance de territoires autonomes gouvernés sous forme autoritaire. Donc pour conclure, et là ça revient un peu finalement à ce qu'on a dit depuis le début, et même les mouvements indigènes disent ça, c'est que cet État plurinational, ce concept d'État plurinational, ne représente pas en fait un modèle que d'autres pays pourraient mettre en place. Et ça c'est important, parce que finalement c'est aussi replacer l'État dans sa propre historicité, et c'est aussi repenser l'État à partir des cultures, à partir d'une histoire propre à un pays. Et du coup, ce concept d'État plurinational, qui reste encore vague, hein, c'est un concept sur lequel on réfléchit sans arrêt en Équateur, en Bolivie surtout, hein, dont les constitutions reconnaissent l'État comme un État plurinational. Pour l'instant, c'est quelques principes pour tenter de sortir les populations indigènes, notamment de la discrimination et de la pauvreté. Donc du coup, à l'intérieur de cette revendication, bon, on va retrouver différentes revendications des mouvements indigènes, notamment l'instauration d'une éducation interculturelle bilingue, l'application de la justice indigène, l'autonomie des territoires indigènes, territoires justement, et là je conclurai là-dessus, territoires sur lesquels les populations indigènes pourraient mettre en œuvre leur propre organisation politique, leur propre organisation sociale du politique, mais aussi leur propre temporalité.
Alors, avant d'entamer le débat, se pose une question, je pense que vous la posez, c'est... On a parlé du présentisme dans les pays occidentaux, bien que la notion d'Occident soit elle-même questionnée, peu importe. On a parlé de ce qui se passe dans ces communautés, dans ces peuples indigènes, et on sait que ce modèle n'est pas exportable, clairement. Toutefois, il y a des pistes, il y a des éléments, et c'est des éléments sur lesquels on peut discuter, qui, eux, peuvent faire réfléchir dans un contexte européen et français. La question du pouvoir de la parole, la question du temps long, c'est une autre manière de parler de démocratie délibérative, une autre manière de parler de démocratie participative. Alors, il faut faire attention, parce que c'est devenu un slogan. Généralement, 15 jours avant les élections municipales, il y a toujours une organisation de quartier participative. Ça a été instrumentalisé politiquement. Cela dit, à l'échelle au moins locale, les expériences de démocratie participative et délibérative montrent qu'il y a une création de liens sociaux qui ont été détruits parce que l'organisation économique fait que nous sommes de plus en plus flexibles, de plus en plus individualisés, et donc ce qui est le plus politique, une démocratie participative, et aussi concrètement des discussions entre les gens, une recréation de liens sociaux. Une deuxième piste, et là on va avoir un problème avec...
Du coup, je vais rebondir un peu sur cette idée-là. C'est aussi l'idée que, notamment dans nos sociétés, une des excuses pour lesquelles on va pas participer ou mettre en place une démocratie participative, pour outre l'argument qu'on pose toujours, c'est dans les sociétés où il y a peu de personnes qu'on peut mettre en place une démocratie directe. En passant, c'est un argument du nombre qui peut tenir la route, qui finalement ne tient pas sur le long terme. Mais l'excuse, c'est on n'a pas le temps finalement de participer. On revient toujours à ce concept du temps qui nous échappe. On n'a pas le temps de participer, parce que déjà, on doit travailler, on doit s'occuper des gamins, faire les courses, regarder la télé, bon, etc. Mais du coup, outre le désintérêt croissant dans nos sociétés pour le politique ou l'affaire politique, finalement, on a toujours ce problème, oui, mais pour qu'il y ait une démocratie participative, une démocratie délibérative, il faut prendre le temps de discuter et prendre le temps d'analyser les problèmes politiques. Et on est toujours dans cette vision, dans ce problème de temporalité où le temps politique n'est pas le même finalement que le temps de la réflexion. Et moi, il me semble que justement, on en discutera un peu tout le long de ces séances, que ces mouvements indigènes nous posent la question d'une réappropriation du temps, et notamment dans l'organisation sociale aussi de ces mouvements indigènes. C'est-à-dire que les mouvements indigènes, en général, sont organisés de manière horizontale, où... les décisions sont prises par la base, c'est-à-dire la base c'est la communauté. Et après, en fait, on monte d'échelon en échelon. C'est-à-dire que les communautés, par exemple en Équateur, tu as les organisations cantonales, les organisations provinciales, les organisations régionales, et après l'organisation nationale. Et du coup, l'organisation nationale, les dirigeants au niveau national, ne prendront jamais la décision, par exemple de faire un soulèvement, ne prendront jamais eux-mêmes la décision. Il faut d'abord qu'il y ait un débat dans les communautés pour savoir si les communautés sont d'accord, par exemple,
faire un soulèvement. On pourra y revenir dessus, il y a d'énormes critiques, ça ne se passe pas en pratique, ça ne se passe pas exactement comme ça.
Et donc, toujours, je pense qu'on finira là-dessus pour vous laisser quand même la parole et le temps long. Deuxième point qui nous est problématique pour nous, Français, élevés et formés dans l'école républicaine française. On a une réaction pavlovienne qui consiste à, quand on entend le mot communautarisme ou communauté, on crie. C'est presque un réflexe pavlovien. Pourquoi ? Parce que derrière, on voit le retour de la destruction du lien civique par des intégrismes religieux, par des particularismes ethniques, etc., etc. Ce qui est problématique, c'est que, et on le voit d'ailleurs dans une certaine gêne quant à la question de l'identité nationale, sur le débat qui nous est plus ou moins imposé ou posé via des préfets par le président de la République, c'est que la nation, d'un point de vue de droite, ça se définit sur des critères ethniques, culturels, historiques, et dans la version extrême droite, biologiques. Mais la nation au XIXe siècle, ou les communautés dans la plupart des pays, ce n'est rien d'autre que le mot pour désigner une organisation sociale locale. Alors si on n'aime pas ces mots, on peut les remplacer par des services publics locaux. On peut les remplacer par des organisations locales qui nous permettent de discuter et de faire des choses ensemble. Pour finir, on parle de relocalisation, selon un argument écologique. Relocaliser, ça diminue la pollution, l'usage des transports, etc. Mais la relocalisation économique, c'est aussi une relocalisation des liens sociaux. Et c'est un point qu'on a un peu oublié. Relocalisation des liens sociaux qui ne passe pas par l'État. Le problème actuel est un autre réflexe pavlovien de la gauche, qui était pourtant très critique vis-à-vis de l'État dans les années 60 et 70, c'est que maintenant l'État est le dernier rempart. On ne pense pas l'organisation sociale, ou très mal, en dehors de l'État. La communauté, pour des raisons républicaines françaises, on n'aime pas ce mot. Mais il faut bien penser à un moment des corps intermédiaires, les associations par exemple, qui nous permettent de créer du lien social avant l'État, en amont de l'État. Et sur ces points-là, regardez l'autre, le plus exotique qui soit pour nos petits yeux de Français, ça nous permet de voir d'autres possibles, y compris pour nous-mêmes. Donc, si tu as quelque chose à rajouter, sinon on peut passer directement aux questions et aux débats.